Voilà, bonjour, bienvenue pour notre classe biblique ce dimanche matin. Comme vous le savez peut-être, donc nous sommes en train de continuer avec une série où deux fois par mois, nous aurons une classe orientée autour du thème des raisons de croire, avec une perspective particulière sur ces questions de lorsqu'on est en train d'avoir une conversation avec nos amis qui sont non-croyants, comment est-ce qu'on peut aborder l'Évangile, la foi avec eux? Comment répondre à ces questions qui sont souvent, admettons-le, difficiles pour nous? Peut-être difficiles pour nous d'y répondre, mais aussi peut-être des questions que nous nous posons aussi. Et donc, le but dans ces classes sera premièrement de nous donner des pistes bibliques pour répondre à ces questions, pour encourager les gens à rencontrer Jésus à travers l'Évangile, mais aussi pour affermir notre foi en tant que chrétien face à ces questions qui sont souvent difficiles et qui peuvent remettre parfois en cause notre foi. Le livre que nous utilisons, vous n'êtes pas du tout obligé de lire ce livre, mais on vous envoie la semaine avant les classes un chapitre à lire. C'est donc du livre « La raison est pour Dieu » d'un auteur qui s'appelle Timothy Keller. Et là, il aborde toute une série de questions qu'on lui pose fréquemment. Lui qui est évangéliste, qui travaille dans un milieu non chrétien, avec beaucoup d'athées, de sceptiques. Et donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le thème qui était dans le chapitre 4, qui est « L'Église est responsable de tant d'injustices ». Et je vous invite pour commencer à prier avec moi. Oui, Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te remettre maintenant notre classe dans la prière que tu nous parles à travers ta parole. Je prie que tu nous aides à avoir des réponses qui viennent de toi, qui sont claires et qui sont aussi le reflet de ton amour lorsqu'on nous pose des questions au sujet de toi, au sujet de la foi. Et notre Père, nous désirons avoir des réponses, mais plus que tout, nous voulons avoir une attitude d'amour, de douceur et de vérité envers ceux que nous rencontrons. Notre Père, aide-moi à enseigner clairement aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie aussi que tu nous ouvres les yeux pour voir les occasions que tu nous donnes pour parler de toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, je n'ai pas de polycopier à distribuer, mais si vous voulez prendre des notes pour certains des versets ou pour certaines des citations, je vous invite à le faire, ou vous pouvez venir me voir à la fin de la classe. Deux scénarios dont on peut parler. Premièrement, lors d'une discussion au sujet de Jésus avec un collègue, celle-ci vous dit que le christianisme a contribué à énormément de mal à travers l'histoire en tant que source d'oppression et motivation pour les guerres. Pourquoi donc serait-elle intéressée par une religion pareille? Ou peut-être vous êtes dans une autre circonstance, comme celle que j'ai entendue avant-hier. Une nouvelle connaissance apprend que vous êtes chrétien, et cette personne vous dit qu'elle a fréquenté une église lorsqu'elle était plus jeune, mais parce qu'elle a été maltraitée, elle a vu de l'hypocrisie et un mauvais comportement, même pire que ce qu'elle voyait en dehors, cela l'a dégoûtée de la foi. Et cela l'empêche donc de croire ces histoires au sujet de Jésus. Donc, comment répondre à ce genre de questions? J'aimerais proposer quelques pistes, en fait c'est 7 pistes de réponses différentes avec quelques éléments que nous pouvons amener pour témoigner de Jésus dans ces circonstances. Et ce sont surtout des pistes pour vous aussi d'aller plus loin dans la conversation. Parce que nous sommes parfois tentés, ou nous nous retrouvons dans une situation où on nous pose ces questions, on ne sait pas quoi répondre, on dit « ah ouais, effectivement », et puis on parle de foot, d'accord, ou on passe à autre chose. Je crois qu'avec ces questions, nous avons en fait une porte ouverte pour parler de Jésus et pour témoigner de l'Évangile. Et donc, on va se focaliser sur ces questions avec une attention particulière sur la première, c'est-à-dire cette idée que l'Église est responsable d'un point de vue historique, et Église au sens extrêmement large, donc ceux qui se disent chrétiens, sont responsables d'énormément de mal et de souffrance à travers l'histoire et sont une force pour le mal. Pour la question donc de l'hypocrisie et de la faiblesse morale de l'Église, on en parlera un peu, mais une des raisons qu'on va inverser ce que fait le livre. Le livre parle beaucoup de cette question et beaucoup moins de la question historique. J'ai décidé de faire l'inverse parce que j'ai grandi avec des personnes qui n'allaient jamais à l'Église. Je peux compter peut-être dans toutes mes connaissances, peut-être 2 de mes connaissances non chrétiens qui ont fréquenté une Église à un moment dans leur vie et qui donc ont cette référence, cette manière de penser quand ils parlent de ce sujet. Tandis que la question du mal historique fait par l'Église revient très souvent. Peut-être dans votre expérience, c'est l'inverse. Si c'est le cas, je vous prie de m'excuser, mais j'ai dû faire un tri pour ce matin. Mais j'aimerais vous encourager à aller plus loin aussi dans votre réflexion et dans la recherche sur ces différentes questions. Mon but, c'est d'avoir 5 voire 10 minutes de questions à la fin de la classe. Donc, on peut toujours me faire stop, d'accord, time out, parce que c'est bientôt midi. Commençons donc, on va structurer en deux parties. Le premier, quand on parle donc du problème du mal de l'Église, quel est le problème vraiment ? Quand on parle de l'hypocrisie ou du mal qui est fait par les chrétiens ou par l'Église. Et dans cette catégorie donc de poser la question quel est le problème, une première piste dans nos conversations, c'est simplement de reconnaître que le problème existe. Vous savez, une des pires choses que nous pouvons faire lorsque nous sommes confrontés à cette objection ou cette question, c'est de dire non, les chrétiens sont toujours innocents et meilleurs que les autres. Et vous le savez. Mais il n'empêche que lorsqu'on est confronté à cette question, nous devons répondre en reconnaissant volontairement le problème et pas en essayant de le cacher. Nous sommes d'accord qu'il y a eu des abus, parfois des abus énormes et terribles, et des abus nombreux qui ont été faits au nom de l'Église et au nom de Jésus-Christ. Et nous avons une responsabilité dans nos conversations avec les non-croyants de reconnaître cette réalité. Nous voyons dans les nouvelles encore aujourd'hui, et depuis 20 ans, cela semble se répéter énormément, mais les histoires des abus, souvent sexuels, mais les abus dans l'Église. Parfois donc les abus sexuels, mais aussi les abus d'autorité et la corruption. L'histoire d'Europe est marquée par l'antisémitisme, qui souvent a été encouragé par les autorités chrétiennes. Et nous avons vu de nombreux pogroms contre les communautés juives, non seulement en dehors de notre belle Suisse chrétienne, entre guillemets, mais même chez nous. On voit dans l'histoire de la chrétienté d'innombrables exemples de persécution de minorités religieuses. Nous pensons à l'aberration qu'est l'Inquisition, ou les croisés et les guerres de religion. Nous pensons aux meurtres, souvent en les brûlant au bûcher, des personnes accusées d'hérésie et de sorcellerie. Nous pensons aux guerres interprotestants et catholiques qui ont ravagé l'Europe pendant plusieurs siècles. Et de faire semblant que ces choses n'existent pas ou que le phénomène religieux ou chrétien ne jouait aucun rôle dans ces choses, c'est de l'hypocrisie. Et nous ne pouvons avoir aucune crédibilité lorsque nous parlons de ces questions si nous n'admettons pas que le problème existe. Il y a une blague, si vous venez de Belfast ou d'Irlande, au sujet des conflits que cause la religion chrétienne. Et c'est le journaliste qui est dans sa voiture à Belfast, et puis il tombe en panne, et puis tout d'un coup, il y a des hommes armés qui sortent, c'est dans les années 90, il y a des hommes armés qui sortent avec les Kalachnikovs, ils les braquent sur sa voiture, et ils disent « catholique ou protestant ». Et le journaliste dit « athée, athée, athée ». Et ils disent « athée catholique ou athée protestant ». Et nous ne manquons pas, malheureusement, d'exemples de violence, de haine, de corruption et d'oppression faits au nom de Jésus. Et donc, notre première piste, et je vous encourage à faire cela, c'est de reconnaître ces choses et avec la personne qui dit « je suis horrifié par ce mal », de dire « je suis d'accord » et c'est une chose mauvaise qui déshonore Christ. Et nous reconnaissons que le problème a existé et continue d'exister aussi. Nous pouvons condamner la passivité, voire la collaboration de nombreux soi-disant chrétiens et d'églises pendant les deux guerres mondiales, ou face aux abus du colonialisme, face aux abus de l'esclavage et du racisme perpétrés par l'Occident. Et ne nous cachons pas lorsqu'on évoque ces sujets en disant « c'est pas important, ça c'est pas représentatif ». Il y a une réalité historique que nous devons reconnaître. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, n'est-ce pas ? Parce que nous croyons qu'il y a plus dans l'histoire de l'Évangile que ces histoires de violence et de souffrance et d'oppression. Et donc, une deuxième piste, toujours dans cette perspective, mais quel est le problème ? C'est de condamner ce problème que nous avons reconnu sur la base de l'enseignement de Jésus. Souvent, l'idée que les chrétiens ou l'Église a fait tellement de mal, ça peut nous clouer le bec. Mais vous savez, Jésus, ça ne lui clouait pas le bec du tout. En fait, Jésus a énormément à nous dire au sujet de la corruption et du mal fait par les gens religieux, et par le peuple de Dieu. Et lorsqu'on évoque ce problème, nous avons, j'en ai la conviction, une occasion géniale de parler directement de Jésus et d'ouvrir la Bible avec ces personnes. Personne ne critique plus la religion et la corruption et l'hypocrisie religieuse que Jésus. Et personne ne le fait mieux. Et donc, quand on évoque le problème, reconnaissons-le, mais parlons maintenant de ce que Jésus dit. C'est ici une porte ouverte pour témoigner de Jésus et de ce qu'il a dit. Si la personne nous dit qu'ils sont offensés par ces choses, nous pouvons dire « tu es offensé, combien plus Jésus ?» Et j'aimerais vous proposer quelques textes, il y en a plus, que vous pouvez regarder avec eux. Et ce qui est génial avec les smartphones, c'est en quelques secondes, vous l'avez. Vous savez ce que Jésus pensait de ceux qui se disent ses disciples, mais qui ne lui obéissent pas ? Regardons Matthieu 7, versets 21 à 23. Jésus dit « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, donc que de beaux gestes religieux et spirituels. » Mais Jésus dit, « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Bon, voilà ce que Jésus pense de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne lui obéissent pas. Et le contexte de l'obéissance ici, c'est le sermon sur la montagne. D'accord ? On va y revenir par la suite. Voici ce que Jésus pensait des chefs religieux corrompus de son temps. Prenons par exemple Luc 20, les versets 46 à 47, où Jésus dit au sujet des scribes, qui étaient l'élite spirituelle et biblique de son époque. Il dit « Gardez-vous des scribes, ils désirent se promener en robe longue, ils aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves, ils font pour l'apparence de longues prières, ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Jésus parle ici, non pas des prêtres païens, d'accord ? Il parle des dirigeants spirituels du peuple de Dieu, qui ont la parole de Dieu, la vraie, à leur disposition. Et il dit, ce sont des gens qui sont sous la condamnation de Dieu à cause de leurs abus, de leur arrogance et de leur corruption. Luc chapitre 11, verset 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, les grands praticiens de la loi, parce que vous payez la dîme de la monte, de la rue et de toutes les plantes potagères, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. » Bon, Jésus condamne des gens pinailleux sur les questions religieuses, mais qui ignorent la miséricorde, la justice et l'amour de Dieu. Matthieu 21, les versets 12 à 13. Jésus entre dans le temple, dans le cœur de la religion juive, d'accord, et de la religion biblique de l'époque. Et qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il entre dans le temple, Matthieu 21, versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Je vous encourage à ne pas avoir honte d'ouvrir la Bible et de regarder ces textes avec vos amis lorsque cette question est évoquée. Quelle occasion de témoigner de Jésus. Bon, je continue, je vais vous assommer de versets pendant quelques minutes et après on regardera la suite. Mais qu'est-ce que Jésus pensait de la violence religieuse ? D'accord ? Vous savez, les disciples de Jésus étaient fans de la violence religieuse. Pierre sort une épée pour défendre Jésus. Jésus lui répond ceci, c'est dans Matthieu 26, 52. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Et lorsqu'il parle avec le gouverneur romain, Pilate, dans Jean 18, 36, lors de son arrestation et de son procès, Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Jésus répudie clairement et directement la violence en son nom ou au nom de son royaume. Et nous devons souligner cela. Bon, plutôt que de juste regarder, parce que là, c'est le tremplin, n'est-ce pas ? On parle de cette critique et de cette condamnation de la part de Jésus, mais cela, c'est aussi l'occasion de parler de la vie chrétienne selon la Bible. Et peut-être que ces personnes n'ont jamais entendu ce que la Bible nous dit vraiment au sujet de comment vivre en tant que disciples de Christ dans le monde. Mais nous allons en parler, d'accord ? Parler de la vie chrétienne selon la Bible. Voici quelques exemples qui sont tous ancrés sur la réalité que Jésus est venu pour donner sa vie et pour servir les autres, y compris et même surtout ses ennemis. Au centre de notre foi, il y a la croix et la mission de Jésus qui est de venir et donner sa vie pour ses ennemis. Jésus dit dans Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et ça, c'est la base de la vie chrétienne. Alors, quelques textes, juste comme exemple. Matthieu 5, 39 à 45, donc le sermon sur la montagne. « Mais moi, dit Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et les apôtres ont compris le message. Paul écrira à l'église de Rome, dans Romains 12, versets 17 à 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Et j'aime tellement ce petit verset dans l'épître de Jacques, Jacques 1, 27, qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. » Vous voulez savoir ce que c'est la religion? Pensez cela. Je vous encourage à connaître certaines de ces références, à connaître certains de ces passages. Parce que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui aime la justice et qui déteste l'oppression et le mal, vous savez, ils vont apprécier Jésus. Et notre but, d'accord, c'est pas d'en faire juste des praticiens d'une religion quelconque. C'est de leur faire rencontrer et faire la connaissance de Jésus pour qu'ils puissent entendre sa parole et donner leur vie à lui. Et quelle occasion formidable de leur présenter ce Jésus-là. Le problème, et soulignons ceci, déjà, on va y revenir, mais ce que nous voyons dans ces passages, et nous nous rendons compte que le problème de ceux qui font le mal au nom de Christ ou au nom de l'Église, leur problème, ce n'est pas qu'ils étaient trop fidèles à l'Évangile, n'est-ce pas? Leur problème, c'est qu'ils ont manqué de fidélité, qu'ils étaient des disciples rebelles et qu'ils n'étaient pas assez déterminés dans leur obéissance. Et donc ça, nous pouvons le mentionner. Bon, un mot quand même sur cette question d'hypocrisie et de faiblesse morale, et je ne vais pas m'y attarder beaucoup, mais pour la personne qui a vécu des mauvaises expériences dans l'Église. De nouveau, ne sous-estimons pas le traumatisme spirituel que cela représente pour ces personnes. Si quelqu'un s'est donné, s'est rendu vulnérable dans une assemblée en pensant qu'ils étaient entourés de personnes qui aiment Jésus et qui se font trahir, maltraiter, abuser, ne sous-estimons pas les dégâts que cela fait. Okay? Et notre but n'est pas de gagner un débat avec cette personne, mais simplement qu'ils puissent connaître l'amour authentique de Jésus. Et nous avons la responsabilité, une fois de plus, d'exprimer notre tristesse et regret parce que cela s'est produit. Mais notre but, c'est toujours de montrer Jésus. Et donc, nous pouvons quand même parler de cette question aussi, toujours d'un point de vue biblique. On peut revenir à ces passages, mais peut-être qu'ils les connaissent déjà. Mais deux pistes que Keller recommande aussi dans son livre. La première, c'est de simplement reconnaître l'imperfection de l'Église. Si nous avons une vision de l'Église comme l'élite morale et religieuse du monde, nous avons un problème. Parce que l'Église est fondée par Christ pour ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas les héros de leur propre histoire, n'est-ce pas? Nous reconnaissons que nous sommes des personnes pécheurs, faibles, qui ont besoin d'un sauveur et qui n'arriveront pas par nous-mêmes. Et donc, lorsqu'on dit, bon, il y a des non-croyants qui sont plus justes que les chrétiens, la réponse, c'est souvent oui, parce que nous reconnaissons cette faiblesse et nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Il y a cette histoire dans Luc 18, c'est une parabole, dans Luc 18, les versets 10 à 14, qui dit ceci. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous pouvons poser la question, dire « Bon, lisons ce passage ensemble. » Pas pour justifier quoi que ce soit, mais simplement le lire et dire « Quelle attitude est-ce que vous voyez dans l'assemblée où vous étiez ? Celle du pharisien ou celle du péager ?» Et si l'attitude était celle du pharisien, bon, nous avons identifié une fois de plus un problème, mais nous avons aussi rapproché la personne de Jésus et de sa volonté. Mais notons que ça c'est un point de départ important, mais il y a une deuxième partie de l'histoire. Si nous reconnaissons que ce n'est pas grâce à nous-mêmes que nous sommes sauvés, que nous avons besoin d'un sauveur, nous savons aussi que Dieu nous appelle à ne pas rester dans une vie spirituelle et morale médiocre, n'est-ce pas ? Mais à la sanctification. Et donc, de nouveau, soulignons cette responsabilité. L'appel que Dieu adresse à l'Église pour une vie sainte. 2 Pierre 1, versets 5 à 9, nous lisons ceci. « À cause de la grâce, » donc il parle de la grâce que nous avons reçue, « à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Pendant l'appel à être saint, le but, c'est pas de se montrer supérieur aux autres. D'accord ? Ayez toutes ces choses comme ça, vous pourrez être mieux que ceux qui vous entourent. Non, c'est pour que Christ soit connu et glorifié. Mais pour prendre ces deux idées ensemble, en d'autres mots, le christianisme biblique reconnaît la faiblesse, premièrement, des chrétiens, l'insuffisance de ses propres membres. Mais il les appelle à changer et à se repentir, mais pas à se complaire dans une vie médiocre. Et le problème dans ces expériences d'église hypocrite ou faible, n'est pas qu'ils prennent le christianisme trop au sérieux, mais une fois de plus, pas assez au sérieux. Et nous luttons tous avec cela, parce que nous vivons des vies de lutte avec le péché, mais avec un esprit de repentance, de demande de pardon et une recherche de croissance spirituelle, nous pouvons être des contre-exemples dans la vie de ces personnes. Bon, une question très rapide. Piste 4, et celle-ci je l'aime bien, mais il n'y a pas beaucoup à dire. Allons-nous juger une vision du monde, une religion ou une idéologie sur la base des abus de ses partisans ou de ses enseignements? Une fois qu'on a regardé ces textes, on peut poser cette question, ou même tout de suite. Bon, en réalité, c'est probablement les deux, n'est-ce pas? On va regarder le comportement des adeptes, mais aussi ce qui est enseigné. Mais c'était le 5 juin, Le Temps, donc un journal suisse, a publié ses statistiques. En Suisse, 50% des matchs de Super League de la saison 2018-2019 ont été le théâtre de violence. 50% des matchs de foot de Super League. Imaginez si 50% des cultes chrétiens, chaque dimanche, se soldaient par des violences, étaient le théâtre de violences. Qu'est-ce qu'on en penserait ? On aurait un problème. Pourtant, Thierry et les autres n'ont pas abandonné le foot. Bon, pourquoi ? Parce que les violences ne correspondent pas à ce qu'est le foot ou le sport organisé. Bon, ça c'est un exemple. Mais on pourrait dire aussi, en posant la question à nos amis, est-ce que vous jugez l'athéisme principalement par ses pires acteurs ? Parce que je peux vous parler de certains des pires acteurs athées dans le monde. D'accord ? Est-ce que nous jugeons les autres religions que le christianisme sur la base de leurs pires acteurs ? Est-ce que nous jugeons l'existence de gouvernements parce que les gouvernements ont causé tellement de mal et de souffrance ? Bon, les anarchistes, oui. Ils disent la cause numéro une de toutes les souffrances humaines, c'est les gouvernements qui oppriment leur peuple et les autres. Ils ont raison. Mais on ne les suit pas dans la logique de se débarrasser de tout gouvernement, n'est-ce pas ? Parce que c'est des questions d'abus et de comportements qui ne correspondent pas au but et à la philosophie et à la pensée qui est derrière ces choses. Invitons simplement les personnes à avoir une prise de conscience. Si vous jugez le christianisme sur ses abus, allez-y. Mais est-ce que vous faites la même chose avec les autres ou est-ce que c'est deux poids, deux mesures ? Le but, c'est de nouveau pas de gagner, mais d'ouvrir une porte pour parler plus de ce que Jésus lui-même enseigne. Vous voyez ce que je veux dire avec ça ? Bon, si nous avons vu quel est le problème, parlons un tout petit peu de quelle est la solution. Un mot pour vous, d'accord ? Notre responsabilité personnelle, donc pour vous et pour moi, c'est une vie de sainteté, on en a parlé. Mais la première réponse, c'est comment nous menons notre vie. 1 Pierre 2, verset 12. « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, tiens, Il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. La première réponse n'est pas intellectuelle, elle est personnelle et au niveau de notre vie, de notre comportement, pas au culte, mais dans la vie de tous les jours. Matthieu 5, verset 16, dans le sermon sur la montagne. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et Tite 2, verset 6 à 8. « Exhorte même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvres bonnes et en donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. » Je crois que si nous avons ces conversations, mais nous sommes quelqu'un qui, au travail, ou dans notre couple, ou dans notre manière d'être avec nos amis, nous sommes malhonnêtes, nous sommes menteurs, nous sommes moqueurs, nous trichons sur nos impôts, on parle des gens quand ils ne sont pas là, on essaye toujours de tirer son épingle du jeu en manipulant les autres. Si nous vivons des vies qui sont immorales et qui sont injustes, comment est-ce que nous pouvons parler de la justice de Dieu ? Bon, nous ne pouvons pas. Mais si par contre nous faisons tous nos efforts pour vivre des vies exemplaires, pour honorer Christ, pas pour s'honorer nous-mêmes, quand on nous pose cette question ou quand on nous dit « bon, l'Église est responsable de tellement de mal », nous pouvons simplement dire « est-ce que j'ai été une source de mal dans ta vie ?» Et s'ils disent « non », vous dites « mais c'est à cause de Jésus, est-ce que je peux te parler de lui ?» Et nous relançons la conversation. Parlons de la question, bon, quelle est la solution si l'Église est responsable de tellement de mal? Une des solutions, on dit, bon, c'est d'éliminer le christianisme, d'éliminer l'Église, et ensuite tout ira bien. Bon, nous avons le XXe siècle, nous avons la Révolution française, qui sont des exemples de ce qui se passe lorsqu'on dit, bon, on va éliminer l'Église et tout ira mieux. Nous avons l'exemple de la terreur en France qui a réussi à tuer en quelques mois autant de gens que l'Inquisition en 450 ans d'existence. Juste pour vous donner un peu de contexte historique. Et nous avons les massacres innombrables du XXe siècle, siècle des génocides et siècle de la libération de la religion. L'historien suisse Théo Tschui a écrit ceci, « L'émancipation de l'homme à l'égard de la religion et les percées scientifiques n'entraînèrent pas le progrès de l'humanité, comme le croyait la génération de 1900, mais des malheurs inimaginables. » Et lorsqu'on a décider, bon, on va enlever Dieu de notre pensée, de la vie publique, on va marginaliser Dieu pour le mettre dans une boîte religion et l'enlever de la vie publique, bon, ce n'est pas la bonté et la sainteté et l'amour réciproque qui a régné. Mais la situation, en fait, s'est empirée. Elle, qui était assez mauvaise pour commencer. Les deux plus grands bouchers de l'Europe au XXe siècle, c'était Hitler et Staline. Et ils n'ont pas agi au nom de Christ, mais au nom d'une idéologie anti-chrétienne et athée. La solution n'est pas d'enlever l'Église. Nous pouvons le dire clairement. D'accord. Il y a l'exemple historique. Mais quelle est une solution ? Parce qu'on peut dire, bon, Jésus dit cela, mais ceux qui pratiquent, qui disent être chrétiens, ne le mettent pas en pratique. D'accord. Ça ne marche pas. On peut dire, bon, enlever le christianisme, ce n'est pas une solution, mais le garder non plus. Et j'aimerais vous encourager à parler d'exemples concrets qui sont très nombreux dans l'histoire, où des hommes et des femmes de foi, ou des églises se sont révoltées contre le mal fait par l'Église. C'est-à-dire que l'Église qui suit les Écritures, fidèle à l'Évangile, c'est la meilleure réponse et la meilleure solution au mal perpétré par l'Église. Ça, j'en suis convaincu. Je vais juste vous donner deux exemples, parce qu'on pourrait passer toute la journée à le faire. Il y a l'exemple des Deutsche Christen contre la Bekenntniskirche, Kirche, d'accord, mon allemand est très vieux. En d'autres mots, les chrétiens allemands contre l'Église confessante. Je ne sais pas si vous connaissez leur histoire, mais en 1933, lorsque Hitler et le parti nazi ont pris le pouvoir en Allemagne, ils ont dit, bon, nous allons créer une nouvelle Église d'État à partir des Églises réformées et luthériennes allemandes, une Église qui est soumise au régime nazi et qui reconnaît la supériorité de la race aryenne sur tous les autres peuples. Et ceux qui l'ont suivi, c'était les Deutsche Christen, les chrétiens allemands. Mais il y a eu immédiatement un mouvement de contestation très fort qui s'appelait l'Église confessante. Et dès 1933, donc c'est quand Hitler a pris le pouvoir, deux hommes, Martin Niemöller et Dietrich Bonhoeffer, qui étaient des dirigeants, mais ils étaient loin d'être seuls, ils sont les moteurs d'un mouvement de résistance spirituelle qui va traverser l'Europe contre l'Allemagne nazie. Et ils vont s'opposer contre le nazisme au sein de l'Église et dans la société allemande. Plus de 7000 pasteurs, uniquement de ces églises réformées et luthériennes, on ne parle pas des évangéliques, des autres mouvements, ils vont publiquement prendre parti contre cette tentative du nazisme de contrôler l'Église. Ils défendent l'Évangile contre le nazisme, ils s'opposent à la guerre et au racisme et au nouveau régime qu'ils considèrent comme satanique. Ils ne disent pas juste que c'est une erreur politique, non, ils disent que c'est Satan à l'œuvre. Et leurs dirigeants sont en général arrêtés, exilés, envoyés au front ou exécutés. Niemöller passera les années 1937 jusqu'à 1945 dans des camps de prisonniers puis des camps de concentration. Dietrich Bonhoeffer est arrêté en 1943, il me semble, et il est exécuté 3 jours avant la libération de 100 camps de prisonniers, pendus dans la cour de la prison. Mais c'était un mouvement allemand, mais un mouvement en Suisse aussi, où les plus grands théologiens suisses du XXe siècle, Karl Barth et puis aussi Émile Brunner, ont pris position publiquement contre le nazisme et ont soutenu avec beaucoup d'autres, dont le pasteur Vogt aussi, qui est très connu pour son travail humanitaire en Suisse, pour soutenir l'Église confessante, pour protéger les Juifs qui fuyaient en Suisse, pour mettre une pression sur le gouvernement suisse qui avait fermé les frontières aux Juifs et les empêchait de venir réfugier chez nous. Et ils ont travaillé en tant qu'Église contre le nazisme. Juste Dietrich Bonhoeffer pour parler un peu de lui. Une histoire assez fascinante, mais c'est quelqu'un qui a quitté le pays au bout d'un moment, mais il a formé 150 pasteurs résistants, entre guillemets, les pasteurs de l'Église confessante. Il a sauvé la vie à 17 Juifs en les faisant passer clandestinement en Suisse. Il est devenu espion pour l'armée allemande afin d'être espion pour l'Angleterre. En fait, il s'est inscrit comme espion chez eux pour donner les informations à l'Angleterre. Finalement, il est arrêté justement pour son aide aux Juifs et son refus initial donc de participer au service militaire, et c'est pour ça qu'il est exécuté. Mais c'est quelqu'un, en 1933, quand personne s'opposait à Hitler ouvertement, il a écrit un tract publié partout en Allemagne pour dire « La manière dont nous traitons les Juifs est satanique et contraire à l'Évangile ». Il a pris position et il a donné de sa vie. Il avait 27 ans quand il a commencé à s'opposer. Il n'a pas fait malgré l'Évangile, il a fait à cause de l'Évangile. Et nous pouvons parler de ces personnes. Un autre exemple, c'est la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Bon, on connaît l'histoire de Martin Luther King Jr., hein, il faut dire junior à la fin. Mais peut-être ce qu'on sait un peu moins en Europe, c'est qu'il était pasteur baptiste et à la tête d'un mouvement chrétien de droits civiques. Il y avait 2 défis énormes pour le mouvement de droits civiques qu'il voulait redonner les droits de vote complets aux Noirs américains, aux États-Unis, et aussi mettre fin à la ségrégation publique, la séparation des Noirs et des Blancs dans les lieux publics. Un des obstacles, c'était justement les chrétiens blancs qui voulaient laisser les choses telles qu'elles étaient, garder la stabilité même si d'autres souffrent. Mais l'autre problème, c'était les nationalistes noirs qui voulaient utiliser la violence pour amener la justice et qui se sentaient tout à fait justifiés de renverser l'oppresseur par la force. Martin Luther King Jr., avec les mouvements d'église, se sont opposés à cela. On parle du « I have a dream hein, »,« j'ai un rêve », mais parlons aussi donc des contestations, les protestations à Birmingham. Voici ce qu'on a donné comme pamphlet de formation pendant des mois à ceux qui allaient donc faire de la résistance passive et non violente à Birmingham, en Alabama. « Médite chaque jour », c'est leurs 10 commandements, « médite chaque jour l'enseignement et la vie de Jésus. » 2. « Souviens-toi toujours que le mouvement non violent de Birmingham recherche la justice et la conciliation et non la victoire. » Il dit « Marche et parle avec amour, car Dieu est amour. Dans tes prières, demande chaque jour à Dieu de t'employer pour que tous les hommes puissent être libres. » 5. « Sacrifie tes désirs personnels pour que tous les hommes puissent être libres. » 6. « Observe avec tes amis comme avec tes ennemis les règles habituelles de courtoisie. » 7. « Cherche à être au service de ton prochain et du monde. » 8. « Abstiens-toi de toute violence, qu'il s'agisse de ton poing, de ta langue ou de ton cœur. » 9. « Efforce-toi d'être en bonne santé physique et spirituelle. » Et 10. « Suis les directives du mouvement et de ton chef de manifestation. » Bon, ça ne ressemble pas forcément à de l'activisme politique qu'on retrouve souvent aujourd'hui. Mais c'était un mouvement des églises, un mouvement spirituel pour ramener les gens à la repentance et pour arrêter un péché qui a été fait parfois au nom de Jésus. En répondant aux chrétiens blancs qui disaient « il n'y a pas de mal à voir la ségrégation », Martin Luther King Jr. évoquait les paroles de Jésus, de l'apôtre Paul et du prophète Amos. Mais il a aussi dissocié, je trouve ça fascinant. Il a été emprisonné pendant justement ces manifestations. Dans sa lettre de la prison de Birmingham, il écrit « Je suis reconnaissant à Dieu qu'à travers l'influence de l'Église noire, la méthode de la non-violence soit devenue une part intégrale de notre lutte. Si cette philosophie n'avait pas émergé, Je suis convaincu qu'aujourd'hui, beaucoup de rues du Sud ruisselleraient de sang. Pour Martin Luther King Jr. pensait que l'Église avait sauvé d'innombrables vies, tout en amenant la justice dans un pays qui en avait terriblement besoin. Quelle est la réponse aux abus de l'Église? Bon, l'histoire nous dit que c'est des gens plus fidèles à l'Évangile. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther, toutes ces autres personnes n'ont pas agi en dépit de l'Évangile ou en se détournant de la parole de Dieu, mais en revenant à cette parole, en faisant appel à la volonté de Christ pour changer les cœurs. Et donc nous terminons en parlant simplement de l'Église comme source de bien à travers l'histoire. Parce que si nous voulons reconnaître tout le mal fait au nom de Christ, fait par l'Église dans son sens général, bon, parlons du bien qui a été fait. Et le temps nous manque. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va faire une chronologie inverse, juste pour un instant. Vous avez entendu parler du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, juste à quelques kilomètres du centre Bonnefoy. Bon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, une fois que la France a été annexée, on a commencé à déporter les Juifs. Et le Chambon-sur-Lignon et toute la région, c'est une région huguenot. D'accord, c'était les protestants français qui longtemps avaient été persécutés par le gouvernement français. Ils ont accueilli, pendant la guerre, on estime entre 3 000 et 5 000 réfugiés juifs et aussi politiques parmi eux, principalement des enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les habitants, les paroissiens de ces différents villages, surtout le Chambon-sur-Lignon, qui ont accueilli des enfants chez eux, qui ont fait des faux papiers pour dire « ça, c'est nos enfants, ça, c'est des membres de notre famille » et qui les ont protégés pendant toute l'occupation de la déportation. Et on estime, comme j'ai dit, entre 3 000 et 5 000 juifs qui ont été sauvés et autres réfugiés qui ont été sauvés par les Chambonnais à cette époque. Et c'était un mouvement d'église. Leur pasteur, le jour de l'annexation de la France, a dit ceci à André et sa femme Magda Trocmé. Il a prêché le dimanche. D'accord, ça c'est la prédication. Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité, sans lâcheté. Nous résisterons lorsque nos adversaires voudront exiger de nous la soumission contraire aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine. En Suisse, est-ce que vous avez entendu parler de Paul Grüninger, chef de la police cantonale saint-galloise dans les années 37 et 38? La Suisse a fermé les frontières aux Juifs après l'Anschluss, après que les nazis prennent l'Autriche, parce que les Allemands ont dit « on veut que vous nous rendiez tous les Juifs pour qu'on puisse s'en occuper ». Et donc, l'ordre a été de fermer toutes les frontières. Et tous les cantons l'ont fait, à l'exception de Saint-Gall, avec Paul Grüninger, qui a décidé de faire des faux papiers, des faux documents d'entrée, de laisser passer les gens, et on estime entre de nouveau 3 000 et 5 000 Juifs qui sont entrés illégalement en Suisse pour rester en tant que réfugiés à travers ses efforts et son refus d'obéir aux ordres. Il a été traîné en justice, il a été privé de ses fonctions, il a perdu sa retraite, il a été diffamé dans la presse, il a tout perdu, n'a plus jamais pu travailler à plein temps le reste de sa vie et a vécu dans la pauvreté sans que la Suisse reconnaisse son tort de son vivant. Vous savez ce qu'il a dit? Ça, c'est de sa propre main qu'il a écrit. « Je n'ai pas honte du verdict de la cour, donc sa condamnation. Au contraire, je suis fier d'avoir sauvé plusieurs centaines de vies. Mon aide aux Juifs était enracinée dans ma vision chrétienne du monde. Il s'agissait au fond de sauver des êtres humains menacés de mort. Et en parlant de sa vie de souffrance et de pauvreté par la suite, même si j'étais souvent dans une situation de détresse extrême, j'ai trouvé le moyen de m'en sortir encore et encore. J'ai fait l'expérience de l'aide abondante de Dieu. » Le plus grand sauvetage de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale s'est passé à Budapest, en Hongrie, où le vice-consul suisse de l'ambassade à Budapest, aidé par la Suède et la Croix-Rouge, ont sauvé la vie à environ 62 000 Juifs qui allaient être déportés à Auschwitz. Et c'était un homme qui avait grandi dans la foi méthodiste, quelqu'un d'extrêmement pieux. Et voici ce que les historiens disent à son sujet. Le courage de Karl Lutz, qui était donc le vice-consul, le fit se révolter contre la trinité pernicieuse de la brutalité, du légalisme et de l'indifférence. Seul un esprit profondément imbu de convictions religieuses et humanistes pouvait résister aux tensions inhérentes à pareil combat. On se taisait, on aidait, on avait la crainte, mais c'est à cause de sa foi qu'il a pu continuer. L'historien genevois Xavier Cornu dit ceci. Plus jeune, Karl Lutz demandait à Dieu de lui confier une mission particulière. Il a estimé que ce dernier lui avait répondu lorsque les Juifs de Budapest sont venus lui demander secours. Vous savez que l'esclavage en Europe a disparu à partir du IVe siècle et pendant plusieurs siècles jusqu'au haut Moyen-Âge, et seulement réapparu au XVIe en Europe. Et cela est attribué à l'influence de l'Église. On a pu posséder un être humain et abuser de cette personne lorsque le christianisme est devenu la religion la plus importante et lorsque l'Église a eu une influence sur la société. Et lorsque l'esclavage est revenu, ce sont les chrétiens, surtout les chrétiens qu'on appelle non-conformistes, c'est-à-dire qui ne faisaient pas partie de l'Église d'État, qui se sont opposés et menaient le mouvement abolitionniste. L'invention des hôpitaux et des maisons de refuge, des hospices et des hôtels Dieu, c'est l'œuvre de l'Église. Un lieu public financé pour que les malades, même qui n'avaient pas d'argent, puissent être soignés, ça c'est l'invention de l'Église au 4e et 5e et 6e siècle, qui ont duré pendant 1000 ans sous la direction des églises et des ordres hospitaliers religieux. Pendant 1000 ans, si vous vouliez être soigné, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre maladie, quel que soit votre degré socio-économique, c'était les églises qui prenaient soin de nous. Et nous avons des hôpitaux grâce à ces personnes. D'innombrables ONG et mouvements de solidarité ont été commencés par des chrétiens dans un but chrétien, y compris la Croix-Rouge et la Croix-Bleue, des mouvements de solidarité et d'accueil aux réfugiés en Suisse et partout dans le monde. On va parler d'un Suisse, MEDER. Je ne sais pas si vous connaissez MEDER. Leur mission, c'est d'aller dans les zones les plus dangereuses et les plus reculées pour aider à stabiliser et reconstruire, en travaillant avec les gens qui sont là, quelle que soit leur idéologie. Ils ont dit ceci: « Nous venons en aide à ceux qui souffrent car nous sommes animés par notre foi en Jésus-Christ, qui nous enseigne à aimer Dieu et à prendre soin des plus vulnérables. Cette foi nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes en toutes circonstances, à prier pour la sagesse lorsque nous devons prendre des décisions et à conserver le courage de vivre et de travailler dans des situations éprouvantes et parfois dangereuses. » Et ils disent, nous le faisons à cause de Christ. Dernier exemple, il y en a plus, mais je promets de m'arrêter ici. Le prix Nobel de la paix 2018 est partagé, entre autres, avec Denis Mukwege. Donc, je suis désolé pour son nom, je fais de mon mieux. C'est un gynécologue africain qui travaille pour soigner les victimes des guerres et les victimes de mutilations génitales féminines. Voici ce que lui a écrit en 2017, donc avant de recevoir le prix Nobel. « Plus que jamais, le message de l'Évangile reste valable et crédible. Les prisons et les lois ne peuvent changer les cœurs, même si elles restent des pédagogues en retenant les sans-cœurs. Seule une loi invisible et intérieure peut produire l'amour, l'arme la plus puissante de transformation personnelle et sociale pour toute l'humanité. Certes, l'Église n'a pas été toujours à la hauteur de son appel, mais notre monde a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes comme ces chrétiens ordinaires qui, avec l'aide de Dieu, ont fait des choses extraordinaires. L'Église a encore un rôle capital à jouer dans notre monde. Ne perdons jamais de vue que le christianisme n'a jamais été sans conséquences sociopolitiques. Nous devons reconnaître le mal qui a été fait par l'Église, les Églises, et qui a été fait au nom de Christ. Mais nous devons aussi connaître et être fiers du bien qui a été fait et qui continue à être fait à cause de Christ. Et nous pouvons partager ces histoires, et ils sont innombrables si nous nous cherchons, de gens qui ont fait le bien aux autres au nom de Christ et des églises qui ont changé le monde pour le bien. Nous avons la conviction qu'ils l'ont fait non pas en dépit de la foi, mais à cause d'elle. Que la réponse au problème du mal commis par l'Église, c'est l'Évangile, comme cela a toujours été le cas. Est-ce que vous avez un moment de question? Oui. Donc la question, c'est le fait que la Bible dise aux esclaves de se soumettre à leur maître, est-ce que cela a encouragé donc la continuation de l'esclavage? Deux éléments de réponse, d'accord? La première, c'est historiquement non. Parce que nous voyons, dès qu'il y a une ascendance au niveau du nombre de chrétiens dans le monde, l'esclavage disparaît. Elle est seulement réapparue en Europe lorsqu'on a réintroduit le droit romain et les études classiques en Europe. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cela, mais le christianisme détruit l'esclavage. Ça fait partie de son ADN. Si nous sommes des esclaves chrétiens, quelle est notre responsabilité? Bon, la Bible nous dit que ce n'est pas de nous révolter, mais c'est d'aimer et de servir nos maîtres. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'esclavage est juste? Bon, non, c'est parce que Jésus s'est fait esclave et a servi. Et la conviction, c'est qu'à travers cela, les cœurs seront changés pour venir à Christ. Et cela détruit le droit d'user et d'abuser qui est à la base donc de l'esclavage. Mais il y a un deuxième élément de réponse. La Bible dit aux esclaves de rester soumis aux maîtres, de ne pas maltraiter leurs esclaves. Mais elle dit aussi que ceux qui font la traite d'esclaves iront en enfer. Bon, cela a tendance à détruire le système esclavagiste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a aucune place dans le royaume des cieux pour ceux qui font la traite d'esclaves. Cela, on n'en parle pas très souvent. Les personnes donc, qui ont justifié, et ça a été fait très souvent, ont justifié l'esclavage sur la base de la Bible, l'ont fait en prenant une petite partie, en ignorant le reste, et en agissant contre l'Esprit de Christ. Ça, nous pouvons l'affirmer. Et d'ailleurs, ceux qui le défendaient, ils abusaient aussi de leur esclave, qui est contraire à l'Évangile. Donc, est-ce que ça a contribué ? Ça a été utilisé comme prétexte à certains moments. Mais d'un point de vue historique, on a vu le christianisme faisait ça, et l'esclavage faisait ça. Et après, il y a eu donc des complications avec l'impérialisme et puis le colonialisme en Europe. Mais il y a eu beaucoup de facteurs anti-chrétiens qui ont contribué à cela. Mais de nouveau, est-ce qu'on reconnaît une culpabilité des chrétiens ? Oui. Il ne faut pas l'ignorer. Mais nous disons qu'ils ont agi contrairement à l'Évangile et pas conformément à celui-ci. Je ne sais pas si ça répond pleinement à la question, mais peut-être ça peut aider un peu. Et une des raisons, c'est parce que c'était une société esclavagiste où l'Évangile a été prêché. Et donc, dans cette société, comment vivre en tant que chrétien ? Bon, c'est en imitant Christ. Et qui va changer les choses à travers cela. Ça, c'est aussi notre conviction, n'est-ce pas ? C'est que ça ne reste pas statique quand les gens suivent Christ, mais que le monde est transformé. Alors, si on n'avait pas cette espérance, je crois qu'on aurait pas mal de craintes, de désespoir face à ces choses.